Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christophe Dickès.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être à l'écoute de Canal Académie. Restez avec nous pour cette nouvelle émission d'Un jour dans l'histoire consacrée à la Nouvelle Revue française. Nous commémorons en effet cette année le 100e anniversaire de la fameuse NRF. J'ai souhaité, au cours de cette émission, aborder un aspect de sa longue, de sa très longue histoire, aspect méconnu s'il en est, puisqu'il s'agit des rapports de la Nouvelle Revue française et de la Grande Guerre, qui deviendra plus tard dans nos manuels scolaires la Première Guerre mondiale. Se pencher sur les rapports entre la NRF et la Grande Guerre, c'est au fond se poser une question, celle du rôle des intellectuels. Vous savez, les intellectuels qui sont nés, qui ont émergé dans les débats au cours de l'affaire Dreyfus quelques années auparavant. Existe-t-il, dans le comportement de ces intellectuels, une linéarité ? Existe-t-il des thématiques récurrentes dans leurs écrits, dans leur comportement, dans leur discours, au cours de cet événement, donc, la Grande Guerre, qui présida à la naissance du XXe siècle? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui. Yaël Dagan, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historienne, docteur de l'École des études en sciences sociales. Alors, vous avez travaillé de longues années sur les rapports que je viens d'évoquer sur ces écrivains de la NRF pendant et après la Grande Guerre. Vous avez travaillé sous la direction d'un professeur, un professeur français, Christophe Prochasson, qui est venu au micro de Canal Académie présenter Saint-Simon. Et alors, vous avez tiré de votre travail de thèse un ouvrage, je dirais même un ouvrage remarquable, la NRF entre guerre et paix 1914-1925, un ouvrage paru chez Talendier. Alors, avant d'aborder ce sujet des rapports de la NRF et de la guerre, je souhaiterais tout d'abord évoquer vos motivations. Vous êtes israélienne, vous avez passé votre licence de philosophie et de lettres à Tel Aviv, vous êtes arrivée en France en 1995. Votre mérite d'avoir travaillé tant de temps d'ailleurs sur les archives françaises est d'autant plus grand. Ma première question sera donc la suivante, elle est simple. Pourquoi ce travail sur les intellectuels français et existe-t-il dans vos motivations une part liée à votre origine, à votre nation Israël ?
Oui, et d'ailleurs je l'explique un peu dans l'avant-propos du livre où j'ai tracé d'une manière très brève ces trajectoires. En fait, quand je suis venue, j'étais à l'époque, et je suis toujours très intéressée par la problématique autour du sentiment national. Mais je voulais travailler, donc ça vient plutôt de mes origines israéliennes, mais je voulais l'étudier sur un autre contexte que celui dans lequel j'étais impliquée. Donc, comme j'étais passionnée par l'histoire française et comme j'aimais beaucoup travailler sur les intellectuels, j'ai déplacé ces centres d'intérêt sur la Première Guerre mondiale. C'est d'ailleurs la période qui m'a été proposée par Christophe Prochasson, qui était le directeur de mon premier travail que j'ai fait en France, qui était sur un autre sujet, mais pendant la Première Guerre mondiale. J'ai fait deux mémoires avant de commencer mes recherches pour la thèse de doctorat. Et là, je voulais travailler sur la Première Guerre mondiale. En même temps, je voulais m'éloigner un peu, travailler sur la question qui est au centre de mon livre, de la démobilisation ou du rapport entre la guerre et la paix ou l'après-guerre. Donc, à ce moment-là, la NRF est venue et parce que j'ai trouvé dans les sources que c'était une question qui était intéressante de poser sur la NRF. Donc, les prétextes, si on peut dire, c'était une polémique qui a lieu en 1919 et autour de la question de la démobilisation culturelle. Et cette polémique est initiée par un article paru dans le premier numéro de la NRF d'après-guerre, signé Jacques Rivière. C'était mon premier contact avec cette source que je connaissais à peine. Parce que bon, en France, tout le monde connaît la NRF, je veux dire, les gens cultivés en moi. Mais pour moi, en tant qu'Israélienne qui était depuis 2 ans en France, ce n'était pas si évident. Mais à ce moment-là, je commençais à m'intéresser à la NRF, à lire des choses. J'ai découvert d'abord que c'était un patrimoine national, un lieu de mémoire, un lieu un peu sacré de la culture française, et ensuite qu'il n'y avait rien, ou presque, pour ainsi dire rien, sur la période de la Première Guerre mondiale et la période de l'immédiate après-guerre de 1919 à 1925, donc la période où la NRF est dirigée par Rivière.
Rentrons, si vous le voulez bien, Yael Dagan, directement sur le sujet, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Vous venez nous dire précisément que la question de la démobilisation vous a intéressé, mais la moitié, même quasiment les deux tiers de votre ouvrage, sont sur cette Première Guerre mondiale, c'est la Grande Guerre. Et c'est passionnant, parce que les travaux sur les rapports des intellectuels et de cette Grande Guerre, il y en a très peu. Comment, d'abord, en quelques mots, pourriez-vous nous définir ce qu'est la NRF et quels sont ses grands écrivains, donc en 1914 ?
Alors, en 1914, la NRF n'est pas encore ce qu'elle deviendra dans les années 20 et surtout dans les années 30. Ce n'est pas encore le lieu de consécration de la littérature tel qu'on les connaîtra plus tard. Donc il faut aussi faire attention de ne pas projeter sur les passés ce qu'on connaît par la suite. C'est une revue qui tire à 3000 exemplaires, ce qui n'est pas anecdotique, mais n'est pas non plus une revue de grand tirage, et qui est assez éclectique déjà, c'est-à-dire elle est ouverte à plusieurs courants, et on peut dire qu'il y a quand même un noyau dur et autour d'un groupe d'amis et autour d'André Gide. Donc André Gide, il n'a jamais été le directeur de la revue, et le directeur en titre, mais il a toujours été central. C'est lui le fondateur et c'est lui l'inspirateur. Et il y a un petit groupe autour de lui, des fondateurs. On trouve dans ce groupe Marcel Drouin, on trouve Jean Schlumberger, Henri Guéon, Jacques Copeau et André Ruyters, André Ruyters et Marcel Drouin deviendront moins importants par la suite. Jean Schlumberger, par exemple, restera très proche de Gide. Il restera une figure centrale de la NRF. En plus de cela, il y a Jacques Rivière qui entre dans la rédaction un peu plus tard et devient le secrétaire de la rédaction à la veille de la guerre. Et il y a Gaston Gallimard qui fait partie déjà de l'entreprise et comme le gérant des comptoirs d'édition de la NRF. Donc voilà le début tout modeste des éditions Gallimard. Et il y a quelques écrivains qui sont admirés, qui sont vénérés par Gide et ses amis. Et
des collaborateurs, des intimes, c'est oui. Ce que vous les appelez ainsi.
Oui, donc on peut. La liste n'est pas très longue. Il s'agit de Paul Claudel, de
Valérie.
De Paul Valéry qui écrit en fait presque rien, mais pour des raisons tout à fait personnelles qui sont liées à son silence pendant 25 ans, mais qui est très proche de Gide. Il y a Roger Martin Dugard et puis
Thibaudet, je renvoie nos auditeurs à l'émission enregistrée avec Michel Lémarie, Thibaudet, l'outsider du dedans, et Alain Fournier aussi.
Et Alain Fournier qui est un ami, le beau-frère de Jacques Rivière.
Alors, nous sommes en 1914, comment est accueillie cette guerre ? Au fond, on a l'impression que tout le monde se réunit derrière la bannière de l'Union sacrée.
Oui, c'est ce qu'on voit dès le début de la guerre. Les premières semaines sont très importantes pour comprendre tout ce qui se passe après, parce que c'est comme un choc, 1914. Alors, il y a un travail qui est fondateur sur cette question. C'est le travail de Jean-Jacques Becker, qui est déjà un classique, qui est publié dans les années 70, qui réfute un peu l'idée qu'on avait avant, comme si les Français ont accueilli la guerre avec un très grand enthousiasme, et qui montre qu'en fait, les réactions étaient beaucoup plus modérées, que les Français ont été très. Ont redouté la guerre. Ils n'ont pas accueilli la guerre avec allégresse. En même temps, quand on voit les réactions des intellectuels, on se pose la question. Et surtout par certains moments. C'est vrai que la guerre, c'est une période de 4 ans qu'on peut étudier dans le détail et voir qu'en fait, elle renferme des périodes à l'intérieur qui sont très différentes. Mais vraiment, quand on voit les tout premiers jours de la guerre, on voit effectivement la panique, on voit que par moments, les réactions sont très enthousiasmées.
Il y a des actions véritablement messianiques, même quasi religieux de la part de ces personnages. Mais est-ce que ces personnages, au fond, est-ce qu'ils renoncent à leur engagement d'intellectuel ou bien d'esprit critique. Vous écrivez dans les premières lignes de votre premier chapitre qui est consacré à la question, il n'y a pas d'analyse politique du conflit. Ils y vont avec l'héroïsme, que ce soit tout simplement un héroïsme militaire.
De toute façon, les gens de la NRF, en tout cas les gens que j'étudiais, sont très faibles en matière politique. C'est des gens qui ne se sont jamais intéressés à la politique. Et c'est à mon avis une des raisons pourquoi ils sont si impressionnés par la guerre. En fait, ils ne sont pas armés, si je puis dire, pour se poser ce genre de questions. Mmh. Donc ils sont naïfs, ils sont parfois même stupides en ce qui concerne la guerre. Ils sont éblouis par ces sentiments d'unité nationale. Et c'est effectivement quelque chose qui n'est pas compatible avec l'esprit critique et même avec la création littéraire, tout simplement. Ce qu'on constate, et pour des gens comme Gide, comme Martin Dugard ou comme Schlumberger et comme d'autres, c'est que cette expérience est tellement exaltante qu'ils n'arrivent pas à trouver les énergies et les moyens pour continuer leur œuvre d'art. Alors c'est d'une part parce qu'ils se posent la question, est-ce que ça sert à quelque chose de faire la littérature dans une période comme ça? Donc est-ce qu'on peut être à la fois engagé et à la fois et continuer d'écrire des œuvres désinvoltes comme on a fait avant 14? Donc au début la réponse est non. Et ensuite ils ne savent pas effectivement, c'est quelque chose qui les laisse complètement démunis et aussi par la suite.
La revue est suspendue?
Oui.
Et elle ne reprendra qu'après la guerre, hein, c'est bien cela ?
Oui, oui.
Alors, vous présentez le parcours de chacun des personnages, notamment celui de Rivière, hein, donc Rivière qui va correspondre à l'apogée de la revue après-guerre. Et ce Rivière est un personnage assez fascinant. Vous le présentez, donc il est prisonnier, c'est bien cela, presque pendant tout le conflit.
Oui, il passe 3 ans dans un camp des prisonniers en Allemagne. Ce sont des années très, très difficiles et la guerre pour lui, c'est un traumatisme psychique. Et je crois que ce parcours des prisonniers qui est très particulier, mais en même temps qui est représentatif pour des millions de personnes pendant la guerre. Cette expérience des prisonniers était très mal connue jusqu'à récemment. Maintenant, avec les travaux d'Annette Becker et de Heather Jones, on connaît beaucoup mieux. Donc, il s'agit d'une expérience à la fois très marquée par la guerre et en même temps très en décalage avec l'image qu'on a de la guerre et que les contemporains de la guerre ont laissée. C'est-à-dire, c'est l'image aux antipodes de l'héroïsme. Et c'est cette expérience-là qui va marquer Rivière à vie. Il ne va jamais surmonter complètement la déception, les sentiments d'inutilité, encore plus renforcés dans son cas parce qu'il était prisonnier, qu'il a senti pendant la guerre. Mais ces sentiments d'inutilité est en même temps quelque chose qui est commun à tous les gens de la NRF, ou presque, parce que dans la plupart des cas, ce n'étaient pas des combattants. Donc, c'est vraiment l'expérience NRF, c'est un peu cette expérience-là de l'inutilité. Et ce qui commence avec un très grand enthousiasme de la guerre finit assez vite par être dégonflé par l'expérience réelle, qui est à la fois une guerre très longue et meurtrière, on ne voit pas la fin. Donc ça, c'est l'expérience de tous les Français ou de tous les Européens qui est à l'origine des désillusions des années à venir. Mais aussi pour la NRF, il y aura toujours quelque chose de genre, nous n'avons pas été vraiment, nous n'avons pas fait partie de l'héros de la nation, donc ça reste quelque chose comme une honte.
Alors comment qualifier cette désillusion qui va arriver avec les années 1916-1917? C'est ce que je vous propose de voir, Yael Dagan, après cette première pause. Nous nous retrouvons dans un instant.
Un jour dans l'histoire revient sur le sac du Palais d'été qui s'est déroulé en octobre 1860. Pourquoi le Palais d'été des empereurs a-t-il été pillé, saccagé, puis brûlé à l'issue d'une expédition militaire franco-anglaise? Réponse en compagnie de l'historien Bernard Brisé sur Canal Académie, une émission en libre écoute et libre téléchargement.
Nous entamons la deuxième partie de cette émission consacrée à la nouvelle revue française dont nous commémorons cette année le 100e anniversaire. Et nous avons décidé au cours de cette émission d'un jour dans l'histoire d'étudier tout spécifiquement les rapports de la NRF et de la Grande Guerre. Je reçois Yaël Dagan, historienne israélienne, qui est l'auteur du livre « La NRF entre guerre et paix 1914-1925 », un ouvrage paru chez Talendier. Alors, après l'élan de l'héroïsme, il y a, vous expliquez aux auditeurs, une désillusion et une certaine crise. Comment d'abord se caractérise cette crise dans les esprits de ces intellectuels ? Et est-ce que des écoles, je pense notamment à l'école de l'Action française, vont constituer des exutoires pour certains de ces auteurs ?
Oui, tout à fait. Alors, ces crises sont très ambiguës. Parce qu'on a d'une part une lassitude donc qui peut pousser certaines personnes à douter de bien fondé de la guerre et à mettre en cause les valeurs de l'Union sacrée, le patriotisme, le nationalisme, et donc évoluer vers des positions pacifistes. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a aussi dans ces crises une part des banalisations de la guerre. La guerre devient une routine, une habitude. Le seuil de tolérance à la violence augmente. Ça veut dire que on devient. C'est dans ce sens que je comprends, moi, l'idée de George Moss, l'historien. George Moss, donc, quand il parle des brutalisations. Pour moi, la brutalisation.
Un ouvrage indispensable à avoir.
Oui, oui. Et donc, pour moi, c'est un aspect important de cette brutalisation, c'est qu'on est. On s'habitue à cette violence, on l'accepte. C'est une façon de s'accommoder de quelque chose qui paraît désormais normal, alors qu'au début, la guerre, c'était considéré comme une exception. Et il y a cette déception de la difficulté à amener, ou même peut-être de l'impossibilité, certaines disent, d'atteindre la victoire, ce qui pousse certaines personnes à épouser des causes politiques extrêmes. Et donc, l'Action française dans ces contextes, se présente à certaines personnes de la NRF, notamment à André Gide, à Jean Schlumberger aussi, à Proust aussi. Proust aussi était très, très fasciné par l'Action française dans cette période. Et comme la solution à tous les maux, il y a une mise en cause aussi de la République. Est-ce que la République peut vraiment continuer à mener cette guerre ? Finalement, je crois que la guerre a prouvé que oui. Mais c'était pendant la guerre, on pouvait s'en douter sérieusement. Donc l'attrait de l'Action française est très forte. Et moi, je l'analyse aussi dans les cas de Gide, moi, comme une fascination pour la force. Et Gide, il est à ce moment-là, d'une manière assez paradoxale, mais pas complètement incohérente, attiré par l'Allemagne. En fait, l'Allemagne, pour lui, représente cette image de la force, de la brutalité. Et il croit qu'il faut répondre par la même chose. Et c'est dans l'Action française qu'il trouve les mêmes idées d'une certaine ténacité ou d'une certaine une idéologie qui permet de faire face.
L'idéologie d'ordre, tout simplement. Est-ce que on remarque aussi chez ces auteurs, en dehors de l'Action française, l'émergence, non pas d'une spiritualité, mais la question d'une question existentielle, tout simplement, parce que ce sont des hommes qui sont confrontés à la mort quasiment tous les jours. Et est-ce que ces hommes se mettent à penser religieux ?
Tout à fait. C'est une question qui n'a jamais été complètement étrangère aux gens de la NRF. C'est des gens qui flirtent avec le catholicisme et depuis des années. Et certains parmi eux sont déjà de nouveau convertis quand la guerre commence. C'est le cas de Rivière et d'Alain Fournier. Bon, Alain Fournier disparaît très vite, donc on peut pas savoir quelle était l'évolution de sa spiritualité. Mais l'expérience de captivité des rivières est aussi une expérience spirituelle très forte. Une autre forme d'expérience spirituelle, c'est celle de Henri Guéant, qui s'est converti, lui, pendant la guerre, en réaction à certains traumatismes vécus pendant la guerre. Donc son cas représente un autre parcours possible. Et Gide lui-même, qui ne s'est jamais converti, il était le plus proche de sa vie pendant cette période à franchir les pas. Il était toujours, et c'était une question qu'il avait abordée et depuis longtemps, et notamment sous l'influence de Claudel, mais c'est pendant la guerre qu'il se rapproche le plus de cette éventualité qu'il ne réalisera jamais. Et là, la femme de Jacques Rivière, Isabelle Rivière joue un certain rôle. Oui. Il y a un certain rapprochement entre eux. Ils travaillent ensemble à la traduction d'un ouvrage de Conrad. Et pendant cette période, Isabelle, elle ne les cache pas d'ailleurs. Elle essaye de les convertir, mais elle est obligée de reconnaître ses limites parce qu'elle n'y arrive pas.
Alors précisément, Gide est un personnage qui est assez fascinant parce qu'on le sent tiraillé. Vous l'écrivez vous-même. Gide illustre une tension entre ordre et révolution.
Oui, donc à la fois dans ses réflexions sur la religion, on peut les voir, son attirance vers l'Action française, et puis plus tard, beaucoup plus tard, dans les années 30, on connaît son engagement communiste. Alors pendant la guerre, il faut le souligner, parce que c'est une période qui est peut-être moins connue dans l'expérience, dans la biographie de Gide. Pendant la guerre, il est très loin du communisme, mais il est beaucoup plus proche de la droite que de la gauche. Néanmoins, on peut dire qu'en rétrospective, c'est la guerre qui est à la base de tous ces questionnements qu'il vont donner, à mon avis, qui vont donner après lieu à ses engagements à gauche. C'est vraiment son école d'engagement, c'est la guerre. C'est là où il se rend compte que la question de l'engagement se pose à cause de la réalité, à cause de l'histoire. Parce que jusqu'à la Première Guerre mondiale, Gide essayait de vivre en dehors de l'histoire. Il restait complètement hermétique aux événements politiques.
Je voudrais citer une phrase de Schlumberger, donc qui faisait partie du groupe. « Je mentirais si je voulais contester qu'il se passe, au plus profond de moi un grand remuement. Mes amis abusent de mon état de passion, de ma haine, de mon désir de nuire, pour me traquer hors de mon point de vue thucydidien. Peut-être la formation protestante rend-elle particulièrement difficile le renoncement à l'universel. Mais dans quoi est-ce que je m'embarque ? Je veux dire difficile théoriquement, car pratiquement tout cela est balayé. » On entend dans ses propos, j'allais dire, Schlumberger, vous l'expliquez, il a une haine de l'allemand. Est-ce qu'il frise un certain nihilisme ? Est-ce que ces personnages qui côtoient l'horreur au jour le jour ont suffisamment, au fond, de recul pour se rendre compte de ce qu'il se passe, en dépit de la brutalisation que vous évoquiez tout à l'heure, de la brutalisation des consciences de la société ? Est-ce que certains personnages émergent et ont un regard lucide sur ce qu'il se passe.
Et certains personnages, oui, mais Schlumberger, par exemple, ça viendra beaucoup plus tard. C'est lui-même qui sera son propre critique en 1923, quand il reviendra sur les normes de ce qui les caractérisait avant la guerre. Alors, pendant la guerre elle-même, c'est difficile parce que la pression sociale est très forte et les gens qui veulent se démarquer de l'ambiance générale se trouvent très isolés. J'évoque les cas de Martin Dugard, par exemple, qui pratique une sorte d'exil intérieur et qui dit à un moment, alors que bon, au tout début de la guerre, il peut encore accepter d'une certaine idée d'une guerre de défense contre l'Allemagne, l'agression allemande, mais quelques mois plus tard, il est en rupture avec cette idée. Il est en rupture suite à cette évolution, il est en rupture avec les gens de la NRF, y compris Gide. Mmh. Il ne peut pas le supporter à ce moment-là. Et il dit qu'il déteste cette guerre et que s'il meurt, il laisse une sorte de testament, que s'il meurt, il ne voudrait pas, il veut qu'on le sache, qu'il croit que sa mort a été inutile parce qu'il ne croit pas qu'il devait mourir pour un ordre de choses qui est très étranger à lui. Donc ça, c'est une réaction. Mais il y a d'autres personnes qui restent très attachées pas seulement à la NRF, je pense à d'autres cas de gens comme l'historien Marc Bloch, par exemple, qui n'est jamais devenu pacifiste, mais qui n'a jamais été qui pensait rester tout le temps, toute sa vie, et notamment pendant la Première Guerre mondiale, dans son devoir patriotique. Bon, pourtant, il n'a pas été dans les excès, genre Schlumberger, d'une haine comme ça, vis-à-vis des Allemands. Donc,
ce qu'il y a d'étonnant également, c'est que vous l'expliquez longuement, c'est que par exemple le catalogue Gallimard est un catalogue que vous dites démobilisé. Sous-entendu, la guerre, alors c'est après 1916, la guerre n'est pas présente dans les ouvrages ou peu présente dans les ouvrages qui sont publiés en 1917-1918.
Oui, alors il faut dire un mot déjà sur Gaston Gallimard qui a une attitude très opposée, très en décalage complet avec tous les autres.
Dit « je suis un anti-héros ».
Oui, il dit « je suis un anti-héros » et en fait il fuit la guerre. Il ne peut pas supporter l'idée de... Il ne se mobilise pas. Donc son attitude est très différente. Bon, déjà, il faut dire aussi que c'est pas un écrivain, donc peut-être que ça joue aussi dans son mécanisme, dans sa psychologie. Il est régi par d'autres éléments, et notamment le fait d'être un homme d'affaires, c'est peut-être un petit peu différent. Alors, est-ce que c'est parce qu'il est hostile à la guerre que son catalogue est démobilisé à partir de 1916? Oui et non, parce que je crois que, comme je dis, c'est d'abord un homme d'affaires. Donc, il n'allait pas proposer un catalogue qui serait complètement en contradiction avec l'opinion publique, qui ne pourrait pas vendre. Gaston Gallimard, c'est un homme qui sent très, très, très bien le public, l'ambiance autour de lui, et il sait pertinemment, au début de la guerre, qu'il est isolé dans ses comportements d'embusqué. Donc en 1915 et 16, son catalogue reflète encore cet esprit mobilisé, parce que je crois qu'il a compris qu'il n'a pas vraiment le choix. Et que s'il veut vendre. Et le fait que déjà en 1917, les catalogues donc, qui reflètent l'évolution de 1916 est démobilisé dans le sens où on parle désormais très peu de la guerre. La guerre se devient marginale dans les catalogues. C'est aussi un signe de temps et c'est aussi un signe de l'anticipation de Gallimard de ce qui va devenir plus tard, effectivement, à partir de 1919. Une demande de la part du public d'autre chose que des œuvres de circonstances ou des choses qui parlent de la guerre.
C'est ce que nous allons voir, Yael Dagan, dans un instant.
Percer le secret des chevaliers teutoniques, ordre hospitalier du XIIe siècle, dans l'émission Un jour dans l'histoire. Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Vous êtes à l'écoute de Canal Academy et je reçois l'historienne israélienne Yael Dagan, auteur du livre « La NRF entre guerre et paix 1914-1925 » paru chez Talendier. Alors nous avons évoqué Yael Dagan dans un premier temps, cette période, les débuts de la guerre, comment la guerre a-t-elle été accueillie par ce groupe de la NRF, puis ensuite nous avons évoqué les désillusions. Nous arrivons à la fin de cette guerre. Comment est accueillie la fin de guerre?
Alors, on parlait tout à l'heure de la démobilisation autour de 1916-1917. Alors, la dernière année de la guerre, c'est une année avec beaucoup de bouleversements, parce qu'on a la première moitié de l'année où la peur de la défaite est très grande, et ce moment est un moment où on redoute les pires. Mais c'est déjà c'est le moment des craintes ne se traduit pas par une panique, mais par un mouvement de remobilisation. Donc, juste un rappel des contextes stratégiques. Mmh. Oui, parce que, en fait, à la fin de 1917, la Russie
signe Brest-Litovsk.
Oui, voilà. Donc, elle ne participe plus à la guerre et ça libère. Les Allemands qui ont combattu sur deux fronts, maintenant peuvent déplacer toutes leurs forces qui étaient sur le front est, ils les déplacent vers le front ouest. Et à ce moment-là, pour la première fois depuis la guerre depuis 14, la guerre devient de nouveau un petit peu une guerre de mouvement et les Allemands commencent à gagner du terrain. Et à ce moment-là, c'est au printemps de 1918 que le moment est le plus difficile pour la France et pour la Grande-Bretagne. Alors, ces mouvements se renversent grâce notamment aux troupes américaines qui arrivent et qui commencent à être à peser dans les rapports de force pendant l'été. Et c'est l'inverse qui s'opère et c'est à ce moment-là que commence la victoire jusqu'à l'armistice du 11 novembre 1918. Donc c'est une année très, très chargée d'émotions et des renversements de tendances. Et à la fin de 1918, c'est un grand soulagement du côté des Alliés. D'une part, et c'est pour certains, à ce moment-là, on voit déjà que l'opinion publique est partagée entre, pour certains, une très grande joie à cause de la victoire, mais pour beaucoup, c'est surtout une très grande joie et une très grande joie et en raison de la paix. Donc, il y a deux attentes différentes. Il y a ceux qui attendent de la victoire un sursaut national. Il y en a ceux qui souhaitent reprendre les choses d'avant-guerre et repartir et bénéficier de la paix et rattraper le temps perdu, parce que finalement en 4 ans on n'a pas pu écrire, on n'a pas pu rêver, on n'a pas pu faire tout ce qu'on a envie de refaire. Donc je dirais que le moment de 18-19, c'est un moment d'affrontement entre ces deux tendances. Et c'est cet affrontement qu'on voit à la fois dans la reprise de l'ANRF en 1919, et c'est le moment aussi où il y a des pétitions de droite et à gauche qui entrent dans et qui créent ce débat très, très passionné.
Je voudrais m'arrêter sur une image tout de même, celle de Rivière encore. Nous revenons sur le personnage de Rivière. Il écrit un ouvrage capital qu'il semble avoir commencé en 1917. C'est l'Allemand. Et alors on sait qu'en 1919, la culpabilité allemande sera posée noir sur blanc dans le traité de Versailles, ce qui posera bien évidemment pour l'avenir des problèmes. Cette culpabilité de l'Allemand, Rivière, vous dites bon, il est chrétien, nous l'avons dit tout à l'heure, il est chrétien, il s'interdit un sentiment de haine, mais on est dans un sentiment de haine à l'état pur.
Alors, c'est un très bon exemple de cette confusion de la victoire. Bon, je n'irai pas jusqu'à dire que Rivière représente toute l'opinion de son pays, mais je crois que ces sentiments contradictoires qui habitent la même personne, et c'est quelque chose de très caractéristique de cette période. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rivière sort de la guerre avec le sentiment d'être atteint dans sa personnalité parce qu'il a vécu un traumatisme et il n'arrive pas à se débarrasser de cette expérience de captivité. Il n'arrive pas à se débarrasser de la haine qu'il a refoulée en fait pendant la guerre. On ne te couvre pas. On ne trouve pas beaucoup de signes de haine pendant la guerre et pendant cette période de captivité. Mais on le découvre après. Et on le découvre après, et il se rend compte qu'il y a un livre qu'il doit écrire, c'est le livre sur l'allemand, ce qu'il pense sur l'allemand. Et c'est très étonnant ce livre, parce que Rivière, c'est quelqu'un qui n'avait pas de rapport particulier à l'Allemagne avant la guerre. Il savait l'allemand comme beaucoup de Français à l'époque, qu'il étudiait à l'école. Et donc il pouvait lire l'allemand, mais il n'avait pas de contact particulier avec ces pays, ni positif ni négatif. Il était assez neutre. Il aimait beaucoup Wagner. Hein, mais donc voilà, à part ça, il n'y avait pas de haine particulière ni d'amour. Et pendant la guerre, donc, il développe cette théorie. En sortant de la captivité, il développe cette théorie de néant allemand, c'est-à-dire cette particularité très allemande. Bon, c'est un livre qui peut faire sourire aujourd'hui, même si par certains côtés, on pourrait dire aussi on aurait pu dire pendant la période des années 30 et 40 que ce livre était prophétique parce qu'il décrit un comportement allemand très, très particulier. Mais bon, il faut quand même admettre que c'est un livre qui considère le peuple comme des entités complètement immuables et qui est basé sur l'idée qu'il existe des races et que les Allemands sont une race à part. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter, évidemment. Donc il écrit ses livres, il est très partagé sur la question de est-ce qu'il a le droit d'écrire un livre comme ça parce qu'il est chrétien et que la haine lui est interdite. Et il finit par l'écrire et par le publier. Et tout de suite, au moment où il le publie, c'est-à-dire que le livre est publié en fin 18. Et il est très bien accueilli. Ça veut dire que le public est prêt à lire des livres comme ça. Mais au moment où il est bien accueilli, Rivière, déjà, il est ailleurs. Il ne croit plus. Enfin, il n'est plus dans le même état d'esprit qu'il avait été au moment de l'écrire. Et ce décalage-là qui est intéressant. Mais je crois qu'il veut aussi profiter de cette position qu'il a maintenant, désormais, comme un auteur qu'on connaît comme un auteur qui peut être anti-allemand. C'est ce qui lui permettra de prononcer, d'exprimer des positions contraire plus tard, et peut-être d'ajouter une certaine crédibilité, puisque c'est quelqu'un qu'on ne peut pas soupçonner d'être un pacifiste.
C'est un moyen de fermer une porte aussi, de fermer la porte de la guerre.
Oui, dans le cas de Rivière, je crois que c'est clair. Il est dit en plus, il faut que je fasse de la place en moi pour écrire autre chose. Donc je vais vomir les Allemands, parce qu'il dit que les Allemands ont pénétré dans son être, ce qui est un comportement très caractéristique en fait, des sentiments de traumatisme, de guerre ou d'autres situations de relations avec des bourreaux. Et donc, c'est un moyen de... Alors, je ne sais pas si ça lui permet vraiment de surmonter, de guérir, entre guillemets, complètement. Mais en tout cas, ça lui permet après de développer des positions différentes.
Alors, avant de venir à l'article programme, comme vous le nommez, donc qui va faire l'objet d'un gros débat au sein de la NRF, peut-être un dernier mot. Ce qui m'a surpris, c'est que dans votre chapitre 4, intitulé « Nouveau départ », vous commencez par cette citation de Martin Dugard. On sent nettement ici qu'il y a du nouveau. La guerre aura avancé l'humanité de plusieurs générations. Nous aurons ce privilège inouï et sans précédent d'avoir vécu l'un et l'autre deux siècles différents. Et il s'adresse en l'occurrence à Jacques Copeau. C'est assez impressionnant de voir que ces hommes ont conscience malgré tout d'être passés d'un temps à un autre. Il y a ce sentiment qu'ils sont passés, oui, d'une époque à une autre.
Oui, complètement. Il y a aussi une... À la mort de Rivière, dans l'hommage qui a été fait à Rivière, on dit que son grand mérite, c'était d'être l'homme de deux périodes. Et c'est un homme qui vient de la période de l'avant-guerre, qui a su s'adapter et mener même de force le nouveau siècle. Donc je crois que ces gens-là, effectivement, ils avaient vécu et ces bouleversements, ils en étaient absolument conscients.
Alors venons-en au fameux article programme. Donc Rivière en est l'auteur et ce programme crée immédiatement une polémique. Alors pourriez-vous rappeler ce contenu et ce qui crée effectivement cette polémique?
Oui. Alors dans les discussions qu'il y a pendant la guerre sur l'avenir de la NRF, on voit que la tendance est nettement de tout le monde croit qu'on peut plus, on pourra plus faire après la guerre des revues littéraires et de littérature pure comme la NRF l'était, ou comme c'était en tout cas son image avant la guerre. Et donc voilà, c'est peut-être le moment de rappeler qui était la NRF avant la guerre sur son charte littéraire. C'était une revue qui s'est positionnée comme une revue
classique, de
littérature classique et qui récusait toute intervention, toute influence extérieure, morale, politique sur la création. Bon, la guerre, c'était évidemment une épreuve très, très, très dure à cet idéal, à cet dogme. Donc, pendant la guerre, on a pensé que ce serait plus possible de revenir en arrière et on ne pourra plus faire de revues de littérature pure. Mais il y a déjà des différences de vue entre Rivière et Schlumberger pendant la guerre. Et ensuite, il n'y a plus de discussion. Rivière reçoit le titre de directeur et aussi l'autonomie d'écrire ce qu'il veut. Mais là, il y a un grand malentendu parce qu'en fait, il ne dit pas exactement ce qu'il va faire. Il est très conscient de ce qu'il fait, c'est un peu un coup d'État. Il est dit dans ses correspondances. Et ce qu'il va faire, c'est de revenir. Il déclare dans son article programme qu'il revient à l'ancien programme de la NRF avant la guerre, ce qui en soi n'est pas un scandale. Par contre, ce qui paraît être scandaleux pour beaucoup de ces, y compris dans le groupe des fondateurs, avec Schlumberger, et notamment Schlumberger et Guéant, ce qui leur paraît scandaleux, c'est qu'ils mettent la guerre entre parenthèses. Ils disent, bon, la guerre est venue, la guerre est passée. Maintenant, la littérature, ça reste la littérature et rien ne va changer ça. Donc, ils utilisent cet argument pour justifier le retour à l'ancien programme. Et il dit que ce qui est le plus difficile à entendre pour les autres, et sur le fond, ça ne change pas grand-chose finalement, mais la forme est très choquante pour certaines, c'est que la guerre n'avait pas que de bien. En fait, il y avait beaucoup de mal dans la guerre. Et notamment, ce qui était le plus négatif, c'est que la guerre a trop pesé sur les consciences. Et en gros, il dit, bon, on a arrêté d'être libre, on a arrêté de créer d'une manière libre, on a réfléchi uniquement en fonction de la victoire et du sentiment national. Maintenant, il faut oublier tout ça parce que nous sommes Français. Et nous, les Français, nous sommes le peuple le plus... Et ce qui nous paraît aujourd'hui très choquant sur les plans de chauvinisme national, mais à l'époque, ça passait sans problème. Nous sommes le peuple le plus vrai de la Terre. Et en fait, pour être des vrais patriotes français, il faudrait arrêter de penser dans ce sens-là. Il faut arrêter d'être conscient d'être français. Donc, c'est là qu'on devient le plus français. Donc, il s'appuie sur ce type d'arguments. Mais, bon, ça me paraît aujourd'hui complètement anodin, mais à l'époque, pour des gens qui sortaient de plus de 4 ans de guerre terrible et qui ont mis tout leur engagement de ce côté-là. Ça paraissait un peu léger de tout terminer ça en 12 pages d'article et dire, bon, maintenant la guerre est finie, on passe à autre chose. Et j'ajoute d'ailleurs que ils avaient peut-être raison dans la mesure où on ne peut pas terminer une guerre juste en disant que c'est terminé. Je veux dire, il est évident que la guerre n'est pas terminée au moment de l'armistice et que la démobilisation va prendre plus de temps. Et qu'on ne peut pas non plus empêcher une nouvelle guerre juste en disant qu'on ne veut plus de la guerre. C'est-à-dire que c'est une attitude qui est un peu, d'une certaine manière, et naïve peut-être, mais c'est ce qui a permis à la NRF de paraître avec beaucoup de fraîcheur et d'attirer aussi beaucoup de public.
Puisque la revue va arriver tout simplement à son apogée. Il y a deux autres périodes, deux autres petites périodes, donc les années 1920-1925, donc qui sont coupées en deux. Nous allons voir ce dernier aspect, Yael Dagan, après cette toute dernière pause. Nous nous retrouvons dans un instant. Restez à l'écoute de Canal Académie.
Saviez-vous que le peintre Claude Monet fut un grand collectionneur d'estampes japonaises ? Cette collection dévoile les liens que l'on peut établir entre l'univers des estampes et celui de Claude Monet. Exemple avec sa toile emblématique, impression au soleil levant, composée de ponts japonais, de glycines et de nymphéas. Le peintre était un paysagiste passionné par les jardins d'eau exotiques, japonisants et propices à la rêverie. Cette émission Carrefour des Arts est en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Nous entamons la dernière partie de cette émission consacrée à la NRF, dont nous fêtons cette année le centenaire. Donc la NRF qui a été fondée le 1er février 1909. Je reçois Yael Dagan, historienne israélienne, auteure du livre « La NRF, entre guerre et paix 1914-1925 », un ouvrage paru chez l'excellent éditeur Talendier. Nous avons évoqué la paix. Yael Dagan, nous entamons au fond, il y a une fraîcheur que vous présentiez dans la renaissance de la revue, mais s'ensuit immédiatement les années 1920-1922 qui sont un peu des années de désillusion et d'amertume, de doute. Comment expliquer cette désillusion? Comment se caractérise cette désillusion? D'autant qu'après, très vite, va suivre une autre période, donc les années 1923-1925, qui vont être pour le coup, des années d'espoir et même d'espoir de paix européen. On sait qu'en France, en 1924, la gauche revient au pouvoir.
On peut comparer les deux périodes, la période de 14-18 et la période de 19-25. Et on voit que c'est dans cette... Les deux périodes commencent avec beaucoup d'enthousiasme. La période de 14... En 14, on commence l'enthousiasme parce qu'on croit que la guerre est justifiée, qu'elle va porter du bien, qu'elle va nous donner les saluts. Et après, il y a une désillusion parce qu'on voit que ça ne marche pas comme ça et que la guerre, c'est beaucoup de destruction, de morts et de plus inutiles. Et qu'on ne voit pas d'issue. Et ensuite, on voit qu'à la sortie de la guerre, il y a l'enthousiasme de la paix. Alors, soit parce qu'on pense que ce sera la victoire qui va amener la gloire nationale, soit parce qu'on croit que la paix, enfin, va nous donner la tranquillité tant voulu. Et puis... Pareil, la déception après, parce que tout le monde est déçu. Ceux qui ont espéré que la victoire sera une période de gloire nationale découvrent que la France est exténuée par la guerre, qu'elle n'a pas les moyens de ses ambitions et qu'elle a perdu en plus le rôle de leader sur les plans internationaux. Et ceux qui ont espéré que ce sera vraiment la paix, ils découvrent que là aussi... On est loin de compte. D'abord, la guerre continue dans d'autres parties du monde, hein, parce qu'il y a la révolution en Russie qui se transforme en guerre civile.
Et... Il y a un sentiment encore national très fort. Il y a notamment l'occupation de la Roue en 1923, où là encore, on pense qu'on est à nouveau au bord de la guerre.
Oui, voilà. Et donc c'est là, en fait, c'est jusqu'à ce moment-là de 23, de la crise autour de la Roue, que ces déceptions de tous les côtés vont dominer et que c'est à partir de cette crise-là qu'on va commencer un nouvel espoir pour installer un véritable pays. Il faut savoir que les tensions franco-allemandes sont très fortes pendant cette période et que l'Allemagne, c'est un pays très instable aussi pendant ces moments. Donc on ne sait pas encore... où ça va, et que les difficultés aussi à se démobiliser, à passer et à accepter et l'autre sont assez grandes.
Alors, on arrive peu à peu, au fond, à l'année 1925-1924, où là, pour le coup, et vous terminez votre ouvrage par cette idée, il y a un sentiment pro-européen. Il y a eu un retournement, véritablement, de l'opinion.
En ce qui concerne la NRF, c'est sûr. Après, on peut discuter pour d'autres milieux. C'est vrai que c'est pas partout et il faudrait aussi comparer avec d'autres milieux. Donc, je dirais pas que c'est un microcosme de la société française. Mais je crois que la NRF, c'est un lieu important. C'est un milieu très important pour la France de l'entre-deux-guerres. Et le fait qu'on peut voir l'évolution de ces gens-là que je suis depuis 14 jusqu'en 25, on voit comment les mêmes personnes qui étaient envahies par la haine de l'allemand évoluent vers des horizons complètement différents et sont capables de reconnaître leurs propres erreurs ou leurs propres limites et prêcher pour des valeurs inversées à ce que étaient les leurs pendant la guerre. Je crois que rien que ces évolutions-là qu'on peut voir pour Gide, pour Schlumberger et pour Rivière, qui sont quand même les trois personnages et principaux de la NRF pendant cette période, c'est significatif. Et je crois que d'autres auteurs de la NRF qui sont autour d'eux leur donnent une légitimation. Je pense à Thibaudet, et qui devient aussi très pro-européen. Et je pense à des écrivains comme Larbaud, qui est un Européen convaincu aussi avant la guerre, et qui, pendant la guerre, s'exile en Espagne parce qu'il ne trouve pas sa place. Mmh. Et là, dans une période, dans une ambiance comme ça, il peut tout à fait exprimer ses vraies tendances.
Yael Dagan, nous arrivons un peu à peu au terme de cette émission. Je voudrais revenir à mon postulat de départ présenté lors de l'introduction, où je disais que donc, le concept d'intellectuel est né avec l'affaire Dreyfus. Est-ce que ce concept d'intellectuel meurt avec la grande guerre de 14-18?
Oui, c'est un peu ma conclusion. Je pense que on a parfois tort de penser que le XXe siècle des intellectuels commence avec l'affaire Dreyfus. Moi, je crois que c'est la Première Guerre mondiale qui est l'expérience la plus déterminante. Parce que, surtout si je pense au premier XXe siècle, la première moitié du XXe siècle, c'est le siècle des engagements. Et la première école de l'engagement, ce n'est pas l'affaire Dreyfus. C'est la Première Guerre mondiale. Alors c'est vrai que pendant l'affaire Dreyfus, on a un champ qui est divisé entre des intellectuels pro et anti-Dreyfusards. Mais il s'agit d'une prise de position qui s'inspire beaucoup de siècles de lumière, dans lesquels l'intellectuel garde son autonomie et s'exprime d'une manière ponctuelle sur une affaire. Il ne s'engage pas corps et âme dans quelque chose, il ne renonce pas à sa vie privée, il ne met pas en cause la création, etc. C'est au contraire, parce qu'il est intellectuel éclairé, qu'il peut se comporter aussi en citoyen responsable. Mais pendant la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'on voit ? On voit que cette séparation de choses n'est plus possible. Si on veut être citoyen à 100%, on ne peut plus être intellectuel. On ne peut plus être intellectuel et on ne peut plus observer la réalité de l'extérieur.
Donc, c'est la fameuse trahison d'éclair de Benda ?
Oui, même si lui-même, il était complètement là-dedans.
Engagé
politiquement, ouais. Pendant la guerre, il était très anti-allemand, il a été très nationaliste. C'est-à-dire que sa critique s'arrête là où il est lui-même en cause. Mmh. Il était incapable, et encore moins que Schlumberger et que Gide, d'être critique vis-à-vis de son propre comportement. Simplement, il s'est arrangé les choses en disant que la France représentait les valeurs cléricales. Donc, il pouvait soutenir la France sans trahir la vocation de l'intellectuel.
Votre dernier mot, il est quand même important. Vous parlez de la guerre civile et européenne. Cette idée d'Europe vraiment et arrive en bout de course et va à l'encontre de tout ce qui s'est passé jusqu'à présent dans cette déflagration mondiale.
Oui. Alors, cette idée de guerre civile n'était pas encore... c'est pas comme ça qu'il faut qualifier la Première Guerre mondiale, mais peut-être que la Première Guerre mondiale a créé les conditions, notamment dans ces rapports entre l'intellectuel et les politiques, qui vont aboutir pendant la Deuxième Guerre mondiale à cette guerre civile où l'engagement prend une place fondamentale.
Eh bien, c'est sur cet engagement, cette idée d'engagement qui est donc fondamentale dans votre ouvrage que nous allons nous quitter. Merci beaucoup, Yaël Dagan, d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Je rappelle les références de votre ouvrage, donc un ouvrage indispensable que je conseille vraiment à tous nos auditeurs, un ouvrage majeur, l'ANRF, entre guerre et paix, 1914-1925, un ouvrage paru chez Talendier. Merci beaucoup, restez à l'écoute de Canal Académie et à très bientôt pour un nouveau numéro d'Un jour dans l'histoire.